Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une nouvelle recommandation de confinement, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Hervé Pierre, conseiller terre au cabinet militaire du Premier ministre, mais vous faites aussi, et les auditeurs de longue date du podcast s'en souviendront puisque nous avions enregistré une émission ensemble l'an dernier, une thèse sur la pensée et l'œuvre stratégique du général Beaufre. Donc bonjour colonel.
Bonjour.
Et la recommandation que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un très grand film, très long et très dur aussi, je dois dire, que en le revoyant ça m'a frappé, disponible actuellement sur Amazon Prime notamment, qui est Voyage au bout de l'enfer, de Deer Hunter, le chasseur de cerfs en anglais, ce qui est un titre un peu plus cryptique mais nettement plus profond aussi je trouve. Film donc de Michael Cimino avec notamment Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Cazale aussi, le Fredo du parrain qui joue en fait un personnage finalement un peu cousin de celui-là, ça m'a frappé en le revoyant. Alors c'est très dur d'expliquer ce qu'est ce film, je vais disons faire un tableau un peu impressionniste et puis on entrera dans le détail ensemble. Disons il y a d'abord le tableau d'une Amérique industrielle, une communauté immigrée d'Europe de l'Est dans cette Amérique industrielle qui mâche vraiment ses immigrants. Il y a une très grande scène de mariage aussi, il y a énormément d'alcool et puis il y a le passage de certains de ces hommes dans le pire de la guerre du Vietnam, où on trouve et où on voit notamment beaucoup de scènes de roulette russe, qui sont à bien des égards un des, disons, fils conducteurs de ce film. Donc dites-nous, colonel, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous saisit dans ce film qui vous pousse à, disons, le recommander ?
Alors c'est un film qui m'a profondément marqué, d'abord par sa violence. C'est un film qui est effectivement extrêmement dur, et c'est un film qui résonne pour moi au regard de mon propre parcours à la fois de militaire mais également de chercheur, puisque j'ai consacré une partie de mes recherches au stress post-traumatique. Donc c'est un film qui résonne pour ce qu'il amène comme compréhension du stress de combat. Et donc la première lecture du film, c'est bien sûr l'histoire que vous avez tout à fait bien décrite. Cette histoire qui se campe profondément dans une Amérique industrielle, qui se campe profondément dans la guerre du Vietnam, et somme toute, l'histoire est dure, mais c'est une histoire qui pourrait être celle de beaucoup de jeunes Américains engagés au Vietnam. Ça, c'est le premier niveau de lecture, à mon sens. Ce qui est plus intéressant, et c'est là où le film, pour moi, a une très forte résonance et dit beaucoup de choses, c'est que la guerre du Vietnam, finalement, on la voit pas beaucoup. C'est un peu un prétexte, c'est un peu un décor. Et finalement, ce qui émerge, c'est quel est le comportement ou le comportement de jeunes engagés dans des situations de violence extrême.
C'est vrai, vous le dites, j'aurais dû chronométrer, mais en fait, la guerre du Vietnam, il n'y en a quasiment pas. Il y a deux scènes quoi, sur trois heures, j'imagine que ça doit faire peut-être une trentaine de minutes maximum. L'action de guerre, c'est presque moins. C'est un film de guerre, c'est certainement pas un film d'action, ou en tout cas très peu. C'est un film sur ce qui se passe autour de la guerre.
Le titre français, en l'occurrence Voyage au bout de l'enfer, il faut peut-être l'interpréter dans le sens où la guerre, c'est évidemment la violence, mais là, le film, il dépasse le cadre régulé de la guerre. Quand vous citez cette fameuse scène de la roulette russe, qui est extrêmement connue, alors il y en a plusieurs, mais on pense à la première, celle qui a lieu dans le camp Viet Cong. Cette scène, elle est en dehors des droits de la guerre, en dehors des lois de la guerre. C'est une scène de violence extrême, une scène de violence absolue. C'est-à-dire que les geôliers, ils sont même pas dans leur rôle naturel dans un cadre de guerre. Ils sont sortis de ce rôle-là et ils mettent les protagonistes face à une violence totale. Et c'est de ce point de vue-là que le film est très intéressant, c'est qu'on voit comment les trois camarades, les trois amis, se comportent, et ils se comportent très différemment face à cette violence extrême.
Ouais, c'est une scène qui, vraiment, à bien des égards, est terrifiante, et sans cette scène-là, le film ne marcherait pas, parce qu'en fait, tout pivote autour d'elle. C'est toute la violence un peu contenue de la première partie du film culmine là-dedans, et en même temps, elle commande toute la deuxième partie du film, puisqu'en fait, de manière différente, mais aucun des trois personnages sortira jamais vraiment de cette scène de roulette russe dans le camp Viet Cong.
Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait la scène de roulette russe, elle joue pour moi le rôle d'une sorte d'opérateur philosophique de l'extrême violence, c'est-à-dire qu'ils sont face au nu de la violence totale. Et ces trois individus, finalement dans le film, se comportent très différemment face à la violence et face au traumatisme que provoque la violence. Si on prend les trois personnages, vous avez Mike, qui est un peu le personnage qui s'en sort le mieux, celui qui fait face, celui qui
est incarné par Robert De Niro.
De la difficulté. Et d'une certaine manière, c'est un peu l'image ou l'incarnation de celui qui arrive à continuer sa vie, à reprendre le fil de sa vie, qui arrive à gérer en quelque sorte le stress post-traumatique et les effets de ce stress post-traumatique. Non pas qu'il soit pas marqué, mais cet événement qui fait rupture dans sa vie, qui est extrêmement violent, il l'absorbe, il l'accepte et il reprend sa vie différemment, mais il repart, quoi. Il repart sur ses deux jambes. La deuxième figure, c'est celle de Steven, celui qui est complètement broyé par la guerre. Alors lui, il rentre effectivement, il y a ce chemin retour, mais il rentre broyé au sens psychologique et physique, puisqu'il est amputé et qu'il est dans un asile psychiatrique. Et donc c'est la figure de celui qui rentre, mais qui rentre d'une certaine manière, de façon à moitié, ou même pas à moitié, en mode survie. Et puis vous avez la troisième figure, vous avez la figure du soldat qui ne rentre pas. Il y a une sorte de métaphore, parce qu'effectivement il ne rentre pas physiquement, ou en tout cas il rentre...
Ça c'est Nick qui est incarné par Christopher Walken.
Voilà, mais ce personnage-là, c'est la figure de celui qui ne revient jamais, de ce type de combat. Et donc je trouve très intéressant de voir au travers de ces trois personnages, d'une certaine manière, les trois archétypes ou trois types de comportements face à la violence absolue de la guerre, mais même dépassant le cadre de la guerre, et face à cette rupture majeure dans leur histoire personnelle. Et donc je fais le lien, et c'est ce que j'explique au début avec un travail que j'ai conduit à Nanterre en philosophie sur ce qu'on appelle la double ipséité, c'est-à-dire la rupture d'identité de l'individu face à cette violence extrême. Et cette rupture d'identité, elle se produit à la fois au niveau personnel, c'est-à-dire l'individu devient étranger à lui-même, il ne se reconnaît pas lui-même, et il devient étranger au groupe, étranger à son environnement social. Et cette double ipséité qu'on observe dans le film, et qui est vécue complètement différemment par chacun des trois personnages, mais évidemment dans les trois cas, ils sont complètement transformés, bouleversés, chamboulés par ce qui s'est produit. Mais dans les trois cas, ils l'expriment, ils le vivent différemment.
Ouais, c'est vrai. Et puis, s'il fallait résumer d'une phrase ce film, c'est l'impossibilité à rentrer. Il y en a aucun des trois qui rentre. Il y en a un qui rentre physiquement dans sa ville, son village, qui arrive pas à rentrer et qui repart finalement puisqu'il va chercher son camarade. Il y en a un qui est tellement broyé qu'il veut pas, il veut même pas revoir sa femme et son enfant. Et enfin, il y en a un troisième qui non seulement rentre pas, reste au Vietnam, mais qui arrive même pas à rentrer en lui-même puisqu'il est complètement, enfin il est c'est un cas, c'est ce qui est décrit, c'est un cas psychiatrique extrêmement lourd, quoi.
Oui, c'est cette image de l'impossible retour, même s'il prend des formes très différentes, et probablement que l'un des trois s'en sort mieux que les autres, et on le voit à la fin, notamment lorsque lui qui était le fameux chasseur et qui ne ratait jamais une cible et qui tuait sa cible à la chasse du premier coup, finit par baisser son arme et ne pas tirer. Et donc il y a l'image aussi, même chez celui qui rentre plus que les autres, l'image d'une transformation très profonde de sa personnalité. Alors, je ne parle même pas des deux autres, puisqu'il y en a un qui est broyé, comme je l'ai déjà dit, et puis un autre qui, en fait, ne rentre pas du tout et qui ne rentre que les pieds devant. Il y a quelque chose...
C'est pour ça que je disais que c'est important, ce titre en anglais de Deer Hunter, parce qu'il y a quelque chose qui se passe... Il y a quelque chose de très profond que Michael Cimino essaye de montrer dans le rapport à la mort autour de la chasse, qui montre dès le début, puisque c'est une des premières phrases du film, c'est l'idée qu'ils vont partir aller chasser, et que clairement la chasse c'est, disons, une représentation à la fois de leur virilité, de leur capacité à tuer, de leur capacité, de leur supériorité sur la nature et de leur capacité à affronter la nature. I don't know what the hell we're even doing. We're talking about hunting the last time before the army. The whole thing, it's crazy. And I'll tell you one thing. If I found out my life had to end up in the mountains, it'd be all right. But it has to be in your mind. What? One shot? Two, it's pussy. I don't think about one shot that much anymore, Mike. You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. I try to tell people that. They don't listen. Et
on voit ce cheminement, et le fait qu'il y ait cette scène en parallèle à la fin montre
disons les contradictions internes que la guerre révèle, quoi.
Alors il y a un effet de bouclage qui effectivement est remarquable dans le film, entre la scène de départ et la scène de fin, avec cette image du chasseur. Et moi je l'interprète aussi comme la possibilité quand même de rentrer transformé, ce qui est le cas de ce fameux personnage Mike incarné par De Niro. Il y a une autre résonance aussi, un autre effet de bouclage que vous avez probablement noté, qui est entre le début du film où De Niro, qui est quand même la tête dure du groupe, dit aux autres qu'il ne les abandonnera jamais, et à la fin il va effectivement rechercher celui qui s'est perdu, et alors même qu'il n'arrive pas réellement à le ramener, puisque finalement son camarade se tue devant lui à la roulette russe, il ramène quand même son corps, ce qui fait que il remplit sa promesse de fidélité au groupe et de camaraderie. Donc il y a cette image là aussi qui est très forte de bouclage entre le début et la fin du film, avec évidemment toute la dureté et puis l'ironie de ce retour qui est en fait complètement tronqué.
Ouais, et puis bon, alors là, les auditeurs ont compris qu'on n'a pas pris beaucoup de précautions par rapport aux spoilers, mais bon, c'est plus intéressant comme ça. Mais il y a aussi quelque chose de l'attitude face à la guerre et face à la violence, puisque justement, vous parlez de cette quasiment dernière scène, enfin cette avant-dernière scène, disons, ou la dernière scène de roulette russe, où en fait, il y a une ellipse dans... On ne sait pas ce qu'est devenu Christopher Walken pendant des années, si ce n'est qu'on a compris qu'il jouait à la roulette russe tout le temps et qu'il perdait jamais, et que c'était ça qui faisait sa réputation. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a son donc Robert De Niro qui le retrouve, qui le fait revenir un peu à lui, qui le ramène au monde. Et c'est à partir du moment qu'il revient au monde et qu'il reprend conscience de lui-même, qu'il n'est plus une machine, disons une espèce de coquille vide, une espèce de robot, c'est à ce moment-là que la mort arrive. Et ça, je pense que ça dit quelque chose aussi de ce que les hommes, ce que les soldats en tout cas, sont besoin de faire, la manière dont ils ont besoin de se configurer, disons, psychiquement pour survivre à la guerre.
Là, il y a une métaphore, je pense, assez forte du stress post-traumatique dans sa forme la plus aiguë, qui est la répétition du même moment. C'est-à-dire des gens pour qui s'effondre tout l'avant et tout l'après, ils restent bloqués sur une scène unique qui vient les hanter et qui est une sorte de ce qu'certains philosophes appelaient une image cristal, c'est-à-dire une image hors du temps qui se boucle sur elle-même. Et cette figure du robot, c'est cette figure de cet instant qui se reproduit en permanence, et c'est le jeu de la roulette russe qui marche en permanence. Mais quand à un moment donné, et c'est la figure du film, et c'est là où c'est extrêmement poignant, c'est quand on sent dans le regard qu'il est en train de revenir, c'est-à-dire qu'il se reconfigure dans sa propre histoire personnelle, dans sa propre identité, et que cet événement-là, cette image cristal, ne peut pas s'insérer dans cette identité-là, c'est à ce moment-là que le jeu se termine par une mort brutale. C'est l'image de l'incapacité à un certain stade de vraiment revenir.
Très bien. Bon, donc vous aurez compris qu'on recommande vivement de revoir Voyage au bout de l'enfer, film pour autant dont on sort évidemment pas indemne, qui est disponible notamment sur Amazon Prime.
Oui, si je peux rajouter quelque chose, j'aurais peut-être dû le dire en introduction, mais la guerre du Vietnam, évidemment, un très grand traumatisme pour l'armée américaine, on le sait pertinemment. C'est aussi un des moments qui a, en quelque sorte, éveillé les consciences à la nécessité de prendre en charge le stress post-traumatique. C'est pas à ce moment-là, parce que ça a déjà été initié après la Première Guerre mondiale, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on conçoit et qu'on comprend à quel point cette maladie est extrêmement puissante et prégnante. Il faut quand même savoir qu'en l'espace de 10 ans, entre 2008 et 2017, les Américains ont perdu plus de vétérans en 10 ans que pendant le conflit lui-même. Ils les ont perdus par suicide.
Ouais, c'est moi qui l'ai pas dit ça, mais j'ai pas précisé la date, mais c'est un film qui sort en 78-79, c'est-à-dire à peine 5 ans après la fin de la guerre du Vietnam, et c'est pas rien quoi de faire quelque chose d'aussi profond et d'aussi marquant quoi, qui analyse à ce point-là le traumatisme du conflit en fait dans un délai assez court et qui tranche assez avec avec beaucoup des films sur le Vietnam qui sortent un peu à la même époque. C'est celui-là est beaucoup plus noir que beaucoup d'entre eux, beaucoup plus profond, et effectivement, il dit quelque chose. Et à vrai dire, c'est aussi pour ça qu'il est précieux, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, des films vraiment sur le stress post-traumatique. Et c'est une liste assez courte, quoi.
Oui. Donc c'est un film magnifique, il faut absolument aller voir.
Revoir, espérons. Enfin, si vous ne l'aviez pas vu, là, c'est un peu comme si vous l'aviez vu, mais ce ne sera pas inutile de le voir une première fois avec tout ce qu'on vient de dire en tête. Merci beaucoup, colonel Pierre.
Merci.
Et à demain, tout le monde.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.